France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Ausculter l'intime, c'est le travail des médecins, des soignants en général. Lorsque le corps souffre, il faut bien aller y voir, toucher, examiner. Le soin et la pudeur, c'est notre deuxième épisode de cette série sur l'intime. Il y a la douleur, souvent, qui ne facilite pas l'exposition du corps souffrant à l'examen clinique. Et ce, alors même qu'on a besoin de cet examen clinique. C'est paradoxal, ce mélange d'envie de soin et de crainte. Et c'est l'un des problèmes de l'intime face aux soignants. Mais il n'y a pas que la douleur qui retient et gêne parfois l'exposition aux soignants qu'on a pourtant sollicité. Il y a le fait de s'exposer, tout simplement, de se dévêtir comme si ce genre de geste n'existait pas dans d'autres situations humaines, dites intimes, justement, ayant d'autres significations, érotiques notamment. Il faut neutraliser tout cela dans le rapport entre soignants et patients, oublier tout ce qui entoure la nudité, faire comme si cela n'avait pas d'importance, et le fait est que souvent, ça n'a pas d'importance. Les deux personnes sont là pour quelque chose de précis. Le soin, c'est un contexte qui n'a rien à voir avec d'autres et la gêne a toutes les raisons de se dépasser. Sauf que ça ne marche pas toujours bien, même s'il est difficile de le formuler des deux côtés de la relation de soins. Il y a bien sûr les cas de faute caractérisés et notre société est déterminée à ne plus les laisser passer quand elles existent du côté des soignants. Mais tous les enjeux autour du soin, de l'intime, de la pudeur ne se réduisent pas au problème des fautes professionnelles et même celles-ci, quand elles sont invoquées, obligent souvent à réfléchir plus avant aux conditions de travail des soignants et à la relation de soins elle-même, qui a mille raisons d'être fragile et risquée. Bonjour Laurent Joseph.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne, membre de l'Institut hospitalier de psychanalyse de l'hôpital Sainte-Anne. Vous avez publié aux éditions Hermann un ouvrage intitulé « La chute de l'intime, la mélancolisation des discours » et aux éditions Autrement un livre intitulé « Nos silences, apprendre à les écouter ». Et bonjour Martin Dumont.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en philosophie de la médecine à l'université Paris-Est-Créteil, anciennement responsable de la chaire de philosophie de l'Hôtel Dieu, créée conjointement par l'École normale supérieure et l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc vous réfléchissez au contact de malades et de médecins et vous vous adressez notamment à des étudiants en médecine. Vous avez beaucoup publié sur la relation de soins. Je renvoie vers notre site pour avoir le détail de vos travaux. Je vous propose ce matin de commencer notre réflexion sur l'intime et la pudeur dans la relation de soins par un cas extrême, celui de plainte pour viol à l'endroit d'une gynécologue spécialiste de l'endométriose, plaintes qui ont été classées sans suite en 2023. Ce n'est pas facile à penser tout cela, ce genre de situation, et souvent l'opinion publique les reçoit en étant bien démunie.
Deux plaintes pour viol ont été déposées contre la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou. Des viols gynécologiques, cette médecin travaillait sous la direction du professeur Émile Darail, lui-même visé par une information judiciaire. Les précisions de Margot Steve.
Oui, ces deux plaintes datent du 25 mai pour la première, du 16 juin pour la seconde. Les deux plaignantes dénoncent, selon nos informations, des viols gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations pratiquées sans leur consentement dans le cadre d'un examen médical. Cette chirurgienne et gynécologue de formation a longtemps pratiqué à l'hôpital Trousseau et à l'hôpital Tenon. Chrysoula Zakharopoulou avait travaillé avec le professeur Darail sur la question de l'endométriose, cette maladie qui génère notamment des douleurs très violentes pendant les règles. Elle avait d'ailleurs remis un rapport en janvier dernier à Emmanuel Macron sur le sujet. La PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, assure n'avoir jamais reçu aucun signalement concernant le docteur Zakharopoulou.
Quelle affaire difficile ce reportage du 22 juin 2022 sur France Inter l'évoque. Chrysoula Zakharopoulou était devenue, au moment des plaintes, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats. Elle était engagée, des partenariats internationaux, engagée dans La République en marche. Et c'est quand elle est arrivée à ce poste que des plaintes se sont produites. Elle travaillait avec Émile Darail, professeur lui-même, objet de plainte. Le problème, c'est que oui, bien sûr, je suppose, Martin Dumont, il y a partout
des pervers, ça existe, il y a des brutes, tout ça existe. Mais enfin, ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on vient se faire soigner pour endométriose, on a très mal. Et c'est très difficile de faire un examen clinique sans faire mal. Ça fait même partie de l'examen clinique, de tester la douleur. Donc, c'est terriblement difficile à penser.
Oui, je pense qu'il y a une ambiguïté profonde de ces situations qu'il faut commencer par reconnaître. Et tout l'enjeu d'un toucher soignant, d'un tact soignant, c'est d'essayer de lever cette ambiguïté aussi, comme on le peut. Et donc, il y a à la fois cette ambiguïté et aussi, quand même, il faut le souligner, les cas profondément ambigus sont peut-être pas si nombreux que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une possibilité de reconnaître où il y a violation dans la relation médicale. Et les cas tangents, me semble-t-il, ne sont pas l'immense majorité. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut signifier que le toucher est effectivement bienveillant, qu'on est dans cette forme de relation, sans non plus introduire, ce qui serait aussi néfaste à la relation médicale, une forme de lourdeur, d'une procédurisation excessive de la demande de consentement, qui serait répétée à chaque instant, qui perdrait son sens. Et là-dessus, effectivement, il y a tout un enjeu pour discriminer cela. Je pense que, moi, la piste que j'aime bien proposer, c'est de souligner que la relation médicale, c'est une conversation. Et donc, dans le cadre d'une conversation, on est censé pouvoir vérifier auprès de l'autre où est-ce qu'on se situe, si tel toucher fait trop mal ou si c'est encore acceptable. Mmh. On peut introduire dans la conversation bien d'autres modalités. D'abord, on peut considérer que les gestes en font partie, sont aussi un dialogue. Mmh. Ce que souligne aussi beaucoup des études plutôt récentes et en partie des choses qu'on avait un peu faites à l'Hôtel Dieu dans le séminaire gestes de soins, c'est à quel point aussi les patients sont actifs dans les examens. C'est-à-dire à quel point être ausculté, c'est toute une activité de la part des patients.
Que le soignant doit parfaitement intégrer dans son travail clinique.
Et voilà, et qui sont parfaitement invisibles en plus. C'est vraiment des micro-attitudes, des formes de relâchement ou des formes de raidissement, etc., qui sont difficilement lisibles. Il y a des études très intéressantes sur le fait que les bébés, par exemple, sont actifs pour être bercés. On ne fait pas que les bercer, il faut qu'ils y participent. Et de la même manière, un examen médical, c'est, me semble-t-il, vraiment une coaction. Et parfois, on a tendance, sous un paradigme un peu techniciste, à voir uniquement le fait qu'on agit sur quelqu'un. Alors déjà, si on se rappelle que le patient agit, évidemment le mot de patient ne nous aide pas beaucoup à voir à quel point il est acteur, on peut se rendre plus attentif à tous ces signes et encore une fois, inclure ça dans le fil d'une conversation qui va du coup pouvoir se permettre des registres très différents normalement. Du dialogue, de l'explication, du silence, de l'expression de l'émotion, etc.
La conversation des sexes, c'est le titre d'un livre de Manon Garcia de 2021 chez Flammarion, et je crois que son concept de conversation vous intéresse. Mmh. Elle l'introduit dans les rapports amoureux et sexuels. Au fond, on peut réfléchir à la conversation aussi, si je vous entends bien, dans le domaine médical. Et au passage, ça c'est ma question pour vous, elle n'est pas facile, je vous préviens, Laurent Joseph.
Je me prépare.
La notion de consentement est en fait trop étroite. Parce que déjà, mais c'est pareil dans la relation sexuelle, l'idée qu'on fasse signer des trucs ou qu'on explicite un consentement, il y a même des féministes qui nous disent c'est aberrant parce qu'une fois qu'on aura signé et dit oui, on pourra tout nous faire alors. Bon, et en même temps, renouveler toutes les deux minutes, c'est problématique aussi. Et puis quand on est là pour une consultation médicale, on a consenti à y aller, mais on n'a peut-être pas consenti à tout ce qu'on va nous y faire. Donc le consentement qui est très à la mode est peut-être une notion trop courte.
Je suis d'accord avec vous, il y a un risque à fétichiser ce consentement, à en faire quelque chose qui nous sauverait de tous les abus et qui nous préserverait. Alors, quand on arrive sur cette question de l'auscultation, il faut rappeler que le territoire de l'intime, c'est un territoire extrêmement fragile, où c'est notre vulnérabilité qui va être entre les mains de l'autre. Là, vous rappelez la question de l'endométriose, mais j'ai en tête beaucoup de patients qui vont avoir des consultations somatiques extrêmement douloureuse, extrêmement exposante, et notamment, je pense à mes patients adolescents, c'est-à-dire à l'âge de la métamorphose, de quelque chose où déjà on n'est pas à l'aise avec son corps. Et j'aime beaucoup ce que vous dites, Martin Dumont, par rapport à cette idée de la conversation, qui n'est pas exactement la même chose que le consentement objectalisé, enfin très objectivé et fétichisé. Dans cette idée de la conversation, c'est aussi tout l'implicite que suppose l'intime. C'est-à-dire cette présence, cette douceur, la manière dont on va englober l'autre, finalement, dans le langage. Et si on prend deux consultations gynécologiques identiques par rapport à l'endométriose, le fait qu'il y ait ce que disait Martin Dumont, c'est-à-dire une présence, un relâchement, un regard entre le soignant et le patient, ausculter la respiration du patient, voir si son rythme s'accélère, si, je sais pas, ses yeux sont dans le vague ou se figent, c'est-à-dire qu'il y a tous les signaux faibles aussi d'une consultation. Et je pense que l'intime, quand le corps est vraiment... quand on se focalise sur le corps, ce sont ces signaux faibles auxquels les soignants doivent être attentifs.
Alors, on va prolonger sur un point que vous venez d'évoquer, qui est la vulnérabilité du patient, pas forcément seulement parce qu'il souffre, mais tout simplement parce que il faut se mettre à nu.
Parce qu'il s'expose.
Il expose son corps face à quelqu'un qui, en général, a une blouse, qui est même, je dirais, survêti, institutionnalisé. Je pense aussi aux... Les patients qui ont été hospitalisés, qui ont eu droit à ce qu'on appelle la grande visite, ça existe encore dans les hôpitaux. Ils sont dans un lit, un pyjama, ils attendent le professeur, les chefs de clinique, les internes qui viennent faire la visite des malades. Et c'est une cérémonie où évidemment, et d'ailleurs les grands médecins le savent très bien, ils essayent de casser un peu la solennité de la chose. Il y a une dissymétrie terrible. On est dans son lit et puis arrive toute une institution. C'est très difficile. Alors, c'est le problème fondamental que soulève Claire Marin dans son livre Hors de moi chez Alia en 2008, suggérant qu'on est incroyablement mis à nu par les soignants eux-mêmes. Écoutez.
Je suis nue. Sur la table d'opération, sur ce lit d'hôpital, devant l'appareil de radiologie. On m'a dit d'attendre. Bientôt j'en aurai l'habitude. Je n'essayerai plus vainement de cacher derrière mes bras et mes mains, mes seins ou mon sexe. Bientôt mon corps me sera indifférent. Je les laisserai le manipuler, comme s'ils ne me touchaient pas. Quand ils auront tout vu, tout exploré, il ne m'appartiendra plus. Il sera détaché de moi, définitivement converti en objet extérieur. Qu'y a-t-il alors d'étonnant à ce que je le méprise, le néglige, le maltraite? N'est-ce pas ce qu'ils m'ont appris à faire? La maladie m'a rendue asexuée. Elle a gommé toutes les marques du genre dans ma vie, sur mon corps devenu androgyne, dans mon discours. Je ne suis ni masculin, ni féminin. Je suis malade, d'un genre neutre, indifférent au désir, à la sexualité, à la reproduction. L'identité de malade phagocyte toutes les autres. Que signifie encore être impudique pour celui qui a été patient? Que reste-t-il de ma pudeur maintenant que mon corps a été balayé par tous ces regards, plus froids et plus aiguisés que le regard humain qui peut au moins se détourner? Après s'être vu en tranches, en taches colorées, en squelette, quelle image vivante de moi reste-t-il encore? Quand tant de regards, habitués à la maladie et à sa puissance dévastatrice, on traversait ce corps avec indifférence, lassitude ou résignation, il ne reste plus grand-chose en lui de pudique, de fier ou de sensuel. Il n'est plus depuis longtemps le lieu d'un plaisir narcissique. Il tombe dans le domaine public. Notre santé devient un sujet de conversation. Aux malades, chacun se croit le droit de demander l'état de son corps, dans ses recoins les plus secrets. On ment, pour ne pas avoir à se mettre à nu.
Et cet extrait de Claire Marin, du livre « Hors de moi » qu'elle a publié chez Alia, est élu par Armance Bourquin de notre équipe qui a beaucoup travaillé, m'a beaucoup aidé pour préparer cette émission. C'est presque excessif, mais on comprend l'excès. Je veux dire, c'est pas une critique. Le fait de dire, comme le fait Claire Marin, que on est totalement asexué dans la maladie. En vérité, je ne suis pas sûre que tous les patients le diraient, mais je crois qu'on comprend ce qu'elle veut dire. Et par ailleurs, puisqu'on parlait de conversation, il faut une conversation médecin-patient, avons-nous dit, mais attention à ne pas faire de la santé du malade un sujet de conversation, dit Claire Marin. Donc ça, c'est très subtil. Conversation qui pourrait même inclure le malade, mais le mettre mal à l'aise. Donc c'est subtil, difficile, et j'aimerais bien que vous m'éclairiez un peu sur ces nuances, Laurent Joseph.
Oui, alors c'est un texte magnifique de Claire Marin, très bien lu, où il y a la question de la pudeur, en fait. Qu'est-ce qu'on peut garder comme pudeur une fois qu'on a été totalement exposé, manipulé, investigué ? La pudeur, c'est la possibilité de la gêne. Et là, on voit ce que dit Claire Marin dans ce texte, c'est que finalement, plus rien ne peut la gêner puisqu'elle est devenue un objet médical. Qu'est-ce qui reste de soi ? Il y a un ton extrêmement mélancolique dans ce texte qui nous suggère aussi une disparition de la féminité, du désir, de l'allant. Alors elle l'a écrit peut-être dans un moment très particulier. Et déjà, à la fin de cet extrait, on voit bien quand elle écrit « on ment pour ne pas avoir à se mettre à nu » qu'il y a quelque chose tout de suite d'une pudeur qui peut revenir. C'est-à-dire qu'elle dit « ma pudeur a disparu » et à la fin du texte, il y a quelque chose du désir, de la vie qui est en train de revenir pour elle, et du coup, elle va recréer cette mise à l'abri, cette pudeur, cette réserve dans le discours aussi, parce qu'il y a quelque chose en elle qui est peut-être en train de se regagner et de se reféminiser et de revenir vers l'autre, en fait, dans son désir. Mais je pense que quand elle écrit ce moment du texte, elle a en tête des postures d'exposition maximum qui, finalement, nous déréalisent et peut-être aussi, parfois, nous dissocient, comme dans des moments où l'intime est arraché, finalement.
Martin Dumont, il y a un autre auteur, Éric Fiat, qui a écrit un texte intitulé « La pudeur à l'épreuve du soin », édité par les Rencontres philosophiques de Monaco. Éric Fiat soulève le problème de la corporéité elle-même, c'est son terme, qui a toujours quelque chose d'étrange, même pour nous. Pour nous qui sommes des corps, évidemment, mais c'est toujours étrange. Et c'est peut-être ça le problème qui fait que dès qu'on se penche là-dessus, on a comme l'impression que si l'âme est séparée du corps, ce que à peu près plus personne ne pense, néanmoins, il y a quelque chose de notre rapport à nous-mêmes, psychique, qui se sent un peu floué parce que le corporel est devant. Est-ce que c'est ça que veut dire peut-être aussi Claire Marin ?
Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'elle veut dire. Mais je comprends ce que dit Éric Fiat dans une forme de réduction un peu brutale à la corporéité, comme si effectivement la réserve intérieure s'était d'un coup épuisée, enfin s'était échappée dans le regard médical. Il y a ce beau texte de Sartre dans L'être et le néant où il y a cette idée que face à autrui, j'ai l'impression que mon existence s'enfuit et est capté par lui comme quand on ouvre la bonde d'une baignoire et que tout s'y retrouve. Et il y a peut-être aussi cette expérience-là d'une réduction à la seule corporéité qui est effectivement complètement déstabilisante dans cette expérience. Et par ailleurs, évidemment, ce qu'on voit très bien aussi dans ce texte, c'est la manière dont le regard médical dans toutes ces dimensions, nous déshabille et effectivement laisse encore une fois sans réserve. Ce qui m'intéresse aussi, c'est Éric Fiat dans son analyse, il a cette belle définition de la pudeur, c'est aussi le fait de pouvoir choisir de montrer ou non son corps, de savoir quand est-ce que je lève la pudeur ou non. Et sans doute qu'une situation de médicalisation, c'est d'avoir le sentiment que je n'ai pas le choix et que je n'ai plus justement de réserve possible. Et ce qu'il faut essayer de rétablir, me semble-t-il, dans la relation médicale, c'est comment conserver des marges de choix encore par rapport à ça. Se dire que je montre ou ne montre pas si je le souhaite, ce qui est parfois délicat parce que ça paraît contradictoire avec avec l'objectif de soin.
Oui.
Mais rétablir ces marges-là, ces formes de jeu, ça me paraît essentiel dès qu'on le peut, en tout cas.
Le problème, c'est que beaucoup de soignants sont évidemment parfaitement conscients de ces enjeux. J'aimerais qu'on parle aussi un peu dans cette émission de leur point de vue. D'abord parce que c'est pas facile, le corps de l'autre, d'y mettre ses mains. C'est pas facile d'être parfait, si j'ose dire. Or, il y a une demande de perfection dans la conversation. On peut être maladroit, on peut mal interpréter un signal. C'est pour ça que c'est difficile à juger aussi. Et puis, il y a les conditions de travail qui parfois mettent très mal à l'aise les soignants eux-mêmes, conscients du problème de la pudeur et n'arrivant pas à honorer l'exigence. Je voudrais que vous écoutiez ce reportage, cet extrait d'un reportage d'Envoyé spécial sur France 2 du 7 septembre 2017, dans lequel on entend une soignante dont la voix est volontairement déformée dire que ses conditions de travail rendent extrêmement difficile le respect de la pudeur des patients.
On nous enseigne qu'il faut respecter la pudeur de la patiente ou du patient, peu importe. C'est-à-dire mettre la serviette sur les parties intimes pour les femmes sur la poitrine. Et quand on arrive dans une structure, vous savez que vous devez faire vite. Vous mettez au moins les serviettes. Il y a 3 patients dans une même chambre, vous mettez la serviette. Voilà, histoire de respecter par rapport au voisin, la pudeur. Puis vous avez la collègue qui vous dit « Non mais là, si tu fais comme ça, on ne va pas avancer. Hein. » Et elle m'enlève les serviettes, tu prends le gant, tu prends un gant, tu nettoies du visage jusqu'au pied, tu changes de gant, tu rinces. Et après, tu retournes et tu fais la même chose derrière. Hein. Sinon, on n'avance pas. Hein. Et là, vous voyez la patiente qui vous regarde et vous la regardez et vous dites « Je suis désolée, mais je suis obligée de faire comme ça. » On est là, le chrono à la main, à faire 12 toilettes en 2h45. Moi, je vous mets au défi, sur des personnes à mobilité réduite, d'arriver à faire 12 toilettes en 2h45.
Laurent Joseph, je vous laisse commenter.
Oui, je pense que là, on est vraiment dans une arène, en fait, avec la rencontre de deux formes de temporalité. La première temporalité, ça va être celle du patient qui vit un moment crucial, comme on le dit depuis le début de l'émission, dans ce moment d'exposition où son intime est entre les mains de l'autre. Et de l'autre côté, on a la temporalité du soignant, qui est celle de la cadence accélérée, d'une cadence qu'on sait de plus en plus difficile à respecter aujourd'hui, avec aussi la santé de l'hôpital. Il y a une ou deux semaines, à l'antenne de France Culture, une émission sur les burn-out des soignants. On connaît les chiffres des suicides, des tentatives de suicide chez les soignants. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre, j'allais dire, de plus en plus cruelle entre ces deux mondes et cette désynchronisation des attentes. Je pense pas que ça soit les soignants qui en soient les responsables. Je pense au contraire qu'ils souffrent énormément et qu'il y a une forme de maltraitance de leur vocation, finalement, dans ces rencontres ratées, dont ils sont eux-mêmes tristes.
Et là, on évoque des gens qui touchent les malades pour les laver, personnes à mobilité réduite. Donc un personnel soignant qui est vraiment dans le toucher, je dirais plus encore que les médecins. Le toucher fait partie de l'examen clinique, mais nous sommes quand même souvent dans une médecine très chimique. Toucher, c'est juste pour l'examen, par opposition d'ailleurs à d'autres cultures, des cultures asiatiques qui soignent beaucoup plus par la manipulation tactile, le massage. Donc nous avons un rapport au toucher, et notamment au toucher du médecin, qui est prévenu, un peu précaire, c'est un moment. Alors que pour une infirmière ou quelqu'un qui s'occupe des malades, le toucher, c'est sa vie au quotidien. Et c'est justement là qu'il faudrait du temps, puisque c'est très difficile. Et c'est peut-être ce personnel soignant qui a le moins de temps, qui ne peut pas, lorsqu'il y a un problème, prendre le temps parce qu'il y a un problème avec un malade qui ne se sent pas à l'aise. C'est terrible. Je trouve que c'est terrible parce que c'est vraiment ce type de personnel, Martin Dumont, qui est confronté à la question de toucher le corps au quotidien et qui a le moins de temps, peut-être.
Ouais, du coup, ça représente la souffrance dont parlait Laurent Joseph de ne pas pouvoir faire son métier comme on voudrait l'accomplir pour le faire un peu bien. Et il y a un avis assez récent du Comité national d'éthique qui essaye de formuler la question du temps dans le soin, justement, et de montrer qu'il y a un enjeu éthique dans le fait d'avoir le temps de faire les soins. Et une tentative de définir ce temps, ça, c'est justement d'avoir une marge par rapport au seul temps technique que le geste est censé prendre. Le temps qui serait défini par un standard, par une taylorisation à peu près du soin.
Oui.
Avoir ne serait-ce qu'une marge par rapport à ça, c'est vital en fait, pour que le soin reste du soin. Pour que le soin soit pas justement uniquement une production normée, ce qu'il a tout intérêt à être, mais qui laisse la place à ce jeu de la conversation qui va partir sur peut-être autre chose. Peut-être justement, d'ailleurs, ne plus parler de la santé comme
Claire Marin. Un sujet de conversation. Voilà, c'est... Mais vive la conversation plutôt que...
C'est ça, une conversation, c'est ce qui n'a pas de sujet. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi dans les conversations médicales, c'est que parfois, on n'y parle pas de sa santé. Et que c'est peut-être une des formes de la bonne santé, de ne pas juste parler de la santé. Pour revenir au texte de Claire Marin, pardon, qu'on a entendu tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a cette question du suspens du temps, ne serait-ce qu'un temps. Alors c'est très difficile à définir de quel temps il y a besoin. Parfois ça peut aller très vite, parfois ça peut prendre très longtemps au contraire. Et qui est une souplesse organisationnelle suffisante, et donc ce qui suppose des personnels suffisants pour qu'il y ait cette souplesse, pour pouvoir prendre un peu plus de temps parfois. Ou... Et il y a un médecin urgentiste aussi qui s'appelle Pierre Valette qui décrit ça de manière très intéressante. Il dit que quand il arrive sur les pires carambolages où l'urgence est extrême, il essaye de se sauvegarder quelques secondes de temps en suspens. Pour ne pas être immédiatement, uniquement dans l'action. Et il me semble que ça désigne presque aussi cette capacité d'introduire déjà du relationnel, même dans le soin qui va être le plus technique, urgent, etc. Et je pense que c'est de ça qu'ont besoin effectivement nos institutions de soins.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter, je pense notamment aux personnes âgées qui passent parfois leur journée dans le silence quand elles sont hospitalisées, avec parfois peu de visites, ou celles qui sont en EHPAD, et que ce moment de la toilette, pour elles, c'est parfois un moment très attendu, en fait, où on va pouvoir déposer quelque chose de soi, où on va justement, comme disait Martin Dumont, dans le geste de soi, déposer quelque chose de sa subjectivité, une trace de notre histoire, au-delà de ce qui nous arrive juste maintenant, de manière contingente ou plus durable si on est hospitalisé à long terme. Mais ce moment-là de l'aide-soignante, de l'infirmière, pour certains, c'est le souvenir qu'ils emportent après, quand ils rentrent. Et certains patients qui ont été hospitalisés avec des cancers dans des moments très douloureux de la chimio, des moments d'épuisement, ramène parfois ces phrases. Et j'avais une infirmière géniale et je me souviens très bien de mes conversations avec elle, ou au contraire, parfois des situations plus compliquées, mais ça fait partie des souvenirs qu'on emporte après et ça fait partie de la manière dont on peut nommer une hospitalisation.
Concernant le problème des soignants, dans l'exercice de leur métier, la manière dont ils réfléchissent, dont ils ont le temps ou non de réfléchir à leurs gestes et à leurs conversations avec les patients, je vous propose d'écouter Cynthia Fleury. Le 24 avril 2025, elle était invitée dans Questions du soir sur France Culture.
La problématique, si vous voulez, de la souffrance au travail, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas l'adversité, c'est le manque de soutien d'une hiérarchie, d'un collectif face à cette adversité. C'est ça qui produit de la souffrance. Parce que les individus, si vous voulez, ils savent que les difficultés de ce monde, les tensions de ce monde, le fait que demain nous sommes dans un grand univers d'incertitude, que donc beaucoup de choses peuvent être bouleversées, ils le savent, que nous basculons dans des modes dégradés. Moi, je me souviens un point important au moment du Covid, avec des pressions extrêmes, et même un réel de la mort, au tout début du Covid, un réel de la mort fort sur les équipes soignantes, et qui me disait « c'est dur, mais on fait notre métier ». On a l'impression d'être utile Et en fait, on a choisi ce métier aussi pour ça, pour être là dans des moments durs de crise. Donc vous voyez très bien, si vous voulez, que c'est pas l'adversité. En revanche, c'est le manque de solidarité, c'est le déni de l'adversité, c'est le fait d'à un moment donné de ne jamais avoir les moyens de faire face, entre guillemets, à l'adversité de manière systémique. C'est des choses perverses d'instrumentalisation, entre guillemets, du dévouement. C'est-à-dire de considérer, si vous voulez, que ces grands métiers vocationnels, entre guillemets, sont sacrificiels par nécessité, par essence, et que d'une certaine manière, ce serait manquer à sa propre éthique de ne pas être dans le sacrifice.
Le sacrifice comme perfection attendue du soignant dans son dévouement, si bien que s'il n'est pas totalement dans ce dévouement sacrificiel, bah, tant pis pour lui, on le critique, il devrait donner tout cela. C'est terrible ce que dit là Cynthia Fleury. Vous êtes d'accord, Martin Dumont, ces représentations du soignant ?
Je pense qu'il reste encore des représentations sacrificielles sur lesquelles, effectivement, de manière très cynique, certains se permettent de jouer pour pressuriser effectivement les soignants. Et effectivement, je trouve que aussi ce que décrit Cynthia Fleury à travers ça, c'est que si jamais sacrifice il doit y avoir, il faut au moins qu'il ait une finalité extérieure, qu'il soit reçu, qu'il soit dirigé vers une société, dirigé vers des proches, qu'il soit pas seulement entre moi et la tâche simple que je dois accomplir, enfin la tâche elle-même. Et du coup, ça me fait penser que dans ces histoires de toucher et de relations à l'intime des patients, on n'est jamais seul dans tout ça. Enfin, c'est jamais juste moi comme soignant singulier uniquement qui vient appréhender telle personne pour la laver, de la même manière que cette personne n'est elle-même pas qu'un individu parfaitement isolé. Mmh. Et quand je touche à son intime, je touche à aussi l'ensemble de ses relations, certainement avec ses proches. Et la question d'un sentiment collectif un peu authentique, c'est sans doute ce qui définit. Il y a des belles études sur ce qu'on appelle les hôpitaux magnétiques, ceux qui sont pas beaucoup plus performants que d'autres, mais dans lesquels les gens se sentent ont le sentiment de bien faire leur travail, et donc où il y a beaucoup moins de turnover. Et effectivement, cette idée d'un soutien institutionnel là-dedans est absolument essentielle. L'idée d'une orientation commune vers la tâche de soin aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Joseph ?
Moi, je suis extrêmement sensible aux propos de Cynthia Fleury, qui avance finalement une forme, comme on le disait tout à l'heure, d'exploitation de la vocation, d'appel constant au sacrifice. Moi, je vais me référer à la sphère de la psychiatrie, puisque c'est celle que je connais le mieux. Par exemple, quand on reçoit, comme psychologue clinicienne, un patient qui est très très mal en point, qui mérite une hospitalisation parce que ses idées suicidaires sont très fortes, très violentes, c'est-à-dire que ça peut basculer et qu'on se retrouve face à la situation qu'on connaît de la psychiatrie française, c'est-à-dire qu'il y a une situation en crise quasiment misérable et que on nous dit que ce patient n'aura pas de place à l'hôpital public avant 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'il peut pas être hospitalisé avant 2 mois et demi, alors qu'il a besoin de soins, de prise en charge. Il a besoin d'être mis à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait alors, dans ces cas-là? Parce que cette émission, ce matin, elle nous permet aussi de penser aux cas concrets. C'est-à-dire que comme psychologue, comme psychiatre, dans un service de jour, c'est-à-dire qu'il peut pas hospitaliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va le recevoir en plus de nos patients prévus, parce qu'on peut pas le laisser 2 mois comme ça dans la nature. Donc, on va rajouter des rendez-vous, et c'est normal, parce que c'est le métier qu'on a choisi, et on n'a pas peur, finalement, de rentrer plus tard chez nous. Sauf que, à la fin, on est aussi tous à nos places différentes, comme celui qui est psychiatre hospitalier et qui voit la liste d'attente de plus en plus forte de patients qui ont besoin de soins, à un moment, cette cadence du soin, cette temporalité devient impossible, en fait. Et oui, alors peut-être qu'après, dans ces moments-là, il faut beaucoup de courage, beaucoup de patience, et aussi parfois beaucoup de café, pour tenir, en fait, pour attendre.
Ou pas trop pour pas trop s'énerver,
parce que je m'énerve pas beaucoup, c'est pour ça, mais... ou pas trop pour pas trop s'énerver, pour retrouver après à nouveau une écoute pour ce patient qui n'a pas de place à l'hôpital. Donc je voulais juste donner ces détails concrets.
Vous faites bien, et puis j'ai une question précise à vous poser qui concerne peut-être singulièrement la psychiatrie. Bien sûr qu'il y a la pression de l'institution, elle existe dans tous les services et particulièrement en psychiatrie, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Pas beaucoup de temps. Il y a aussi parfois les maladresses dans tous les types de médecine, tous les domaines de la médecine qui peuvent exister de la part d'un soignant, même bien intentionné. Il peut y avoir des fautes caractérisées, nous en avons parlé. Mais est-ce qu'il y a aussi parfois l'injustice du patient qui est agressif, qui, même quand on l'aide vraiment, ne peut pas le recevoir, parce que ça pose la question de ne pas pouvoir recevoir aussi. Et ça, c'est terrible. Pouvez-vous nous en parler justement dans un domaine où quelqu'un va tellement mal qu'il est incapable de ce que peut-être Mélanie Klein appelait la gratitude, alors qu'on lui donne vraiment quelque chose, mais c'est impossible pour lui de le ressentir comme tel.
Oui, il y a plusieurs cas très concrets, des cas cliniques qui me viennent à l'esprit lorsque vous évoquez cette question. Mais cette question, j'allais vous dire, on est presque habitué, en fait. Ça nous arrive dans une semaine, plusieurs fois, un patient qui va être peut-être, qui va avoir un sentiment de persécution. Par le soin ou par une prise en charge qu'il aimerait autre ou une prise en charge qu'il aimerait plus longue, plus forte, plus de rendez-vous par semaine. Et puis il y a aussi pour certains adolescents pour qui on va faire un signalement, par exemple, qui va être victime de mauvais traitements ou d'abus sexuels dans sa famille, ça va lever énormément d'attitudes contradictoires. C'est pas évident de recevoir le soin, c'est pas ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire que quand on a été un enfant ou un adolescent en proie à de mauvais traitements chez nous, le fait qu'on fasse un signalement, c'est-à-dire qu'on bouscule toute une organisation familiale, ça va forcément lever de la colère et parfois de la vengeance.
Alors on va continuer sur ce problème. Nous parlons du soin ce matin, de la relation de soin et de l'enjeu de la pudeur au sein de la relation de soin. Comment ausculter l'intime, comment le reconnaître, le respecter, comment créer une conversation médecin-patient alors même que ça souffre, et ça souffre parfois beaucoup, d'ailleurs des deux côtés différemment. Ce sont les questions que nous agitons ce matin. Je suis en compagnie de Martin Dumont et Laurent Joseph. On évoquait la colère des patients, on va même carrément évoquer les agressions contre les médecins, sujet qui préoccupe beaucoup de soignants. Il y a des affiches partout dans les hôpitaux où on demande une correction, de se comporter correctement avec les soignants, y compris sur le plan verbal. Beaucoup d'affiches disent cela dans les hôpitaux, ce qui prouve qu'il y a un sujet. Voici un reportage, un extrait d'un reportage de France Info du 12 mars 2025.
J'ai pas vu le coup partir, il m'a mis un coup de tête. Ça saignait énormément, donc je pouvais même pas composer de téléphone.
En novembre, le docteur Mohamed Oulmeki a été agressé par un patient dans son cabinet en Seine-Saint-Denis. Il se filme alors en sang, le nez fracturé.
Même si j'ai un vigile à l'extérieur et tout ça, ce genre d'agression, il n'aurait même pas été prévisible qu'on puisse l'arrêter avant.
En Haute-Savoie, cet infirmier a été blessé en janvier par un patient et son frère, estimant le temps d'attente trop long aux urgences.
À un moment donné, je me suis retrouvé au sol avec une ruée de coups.
Le nombre d'agressions de soignants a explosé. 955 en 2020, 1581 en 2023, plus 65% en 3 ans.
On voit bien que notre société aujourd'hui est de plus en plus violente. D'autre part, il est bien évident que la difficulté aujourd'hui à trouver des soignants peut, non pas expliquer, non pas justifier, mais peut permettre de mieux comprendre un peu cette augmentation.
Les syndicats de soignants appellent aujourd'hui à fermer les cabinets et à manifester partout en France.
Martin Dumont, il ne s'agit pas de l'hôpital, il s'agit de cabinets médicaux privés. Je vous laisse réagir. Le problème de l'agression des patients à l'égard des médecins, je crois que c'est encore un des sujets très très difficiles à penser. C'est intolérable. Par ailleurs, vous venez tous les deux de dire dans ce studio à quel point c'est parfois très dur pour les patients, ne serait-ce que d'attendre ou de regarder comment on traite leur époux, leur épouse, leur enfant. Ils voient quelqu'un de leur famille souffrir. Ils voient peut-être l'agacement d'un personnel médical débordé. Il ne s'agit pas d'excuser. Il s'agit de quoi alors? Comment on réfléchit à ces problèmes, Martin Dumont?
Il y a effectivement quelque chose de très violent pour les soignants, hein, de recevoir de la violence en retour d'une... d'une perspective bienveillante, de prise en charge. Ça montre que la symétrie dans le soin, bizarrement, elle est un peu dans les deux sens. Les patients, eux aussi, peuvent déborder, ne pas être correct. Et alors, particulièrement en plus, ce qu'il y a de frappant dans ce cas, c'est la situation du médecin isolé, parce que il y a tout un travail, me semble-t-il, à faire auprès des médecins qui sont en cabinet éventuellement seuls ou à deux ou trois. Dans une structure hospitalière, on peut espérer avoir un peu plus de soutien dans une équipe pour recevoir ce genre d'événement. Donc il y a des situations là-dessus très, très différentes. Moi, je dirais aussi que une manière de les gérer, c'est justement la chance en tout cas que nous laisse le contexte médical, c'est d'être capable de ne pas uniquement moraliser ces situations et de ne pas uniquement voir la violence du patient comme une faute morale de sa part. Et de voir que c'est aussi peut-être en partie l'expression de la détresse d'un malade, que c'est une manière intolérable de gérer des choses qui sont peut-être intolérables pour la personne. Et un des travaux aussi compliqué à faire pour les gens qui soignent, c'est aussi de continuer à soigner dans ce contexte-là. Et d'être capable de séparer le judiciaire du médical en se disant que moi, en tant que soignant, je ne suis pas celui qui rend la justice. Et en particulier, ma manière de rendre la justice ne sera pas de dire à quelqu'un « Eh ben, on ne vous soignera pas ». Et évidemment, c'est très compliqué. Hein. Les patients qui sont insupportables, évidemment, c'est parfaitement humain, c'est compréhensible. Au bout d'un moment, on se dit...
Ou non, parfois c'est insupportable et incompréhensible. C'est juste insupportable, intolérable.
Oui. Ce que je veux dire, c'est compréhensible. La réaction éventuellement de dire, dans ce cas, allez vous faire soigner ailleurs. mais tout l'enjeu, c'est d'essayer d'avoir, me semble-t-il... Là-dessus, la distinction entre la justice et la médecine quand même aide. Hein. C'est aussi de pouvoir se dire, c'est pas à moi en tant que soignant de rendre justice sur cette question et je peux porter plainte. Alors il faut que ce soit fait de manière efficace. C'est-à-dire, c'est d'autres instances qui vont venir gérer cette violence d'un patient à l'égard de ses soignants.
Laurent Joseph.
Oui, je voulais juste apporter l'éclairage de Freud dans Deuil et Mélancolie. Ce qu'on entend dans cette violence des patients, qui est une violence terrible et inacceptable, c'est qu'on est au bord d'un seuil mélancolique, c'est-à-dire le moment où on se sent complètement abandonné par la société, ce qu'on a vécu aussi dans le Covid. Ce que je veux juste pointer, c'est que Freud rappelle qu'avant de basculer dans cet état mélancolique, d'abandon finalement, d'espoir par rapport à la société, il peut y avoir ce qu'il appelle une constellation psychique de la révolte. Et cette constellation psychique de la révolte, elle va être nourrie par des propos de mécontentement, par des réclamations, par une protestation, une révolte. Et vraiment, l'extrait qu'on vient d'écouter me fait penser justement à ce que Freud nomme constellation psychique de la révolte, juste avant la chute mélancolique et ce moment finalement où on ne croit plus en grand-chose, quoi, où on lâche la société, on lâche l'espoir.
C'est très intéressant ce complexe de révolte qui précède l'effondrement mélancolique et le déchargement de la violence. Alors, pour finir, c'est un gros sujet, je voulais quand même qu'on ait un peu le temps pour le traiter. Je vous cache pas qu'on va aborder un point, alors là, dans le genre impensable, je trouve ça terrible. Je ne sais pas comment font les médecins avec ce sujet. C'est un sujet très ancien, c'est celui du secret médical. Comment on fait avec le secret médical, notamment quand on a affaire à un patient qui est porteur d'une maladie qu'il peut transmettre sexuellement, par exemple. Lorsqu'on est un médecin de famille, qu'on soigne une famille, je ne sais pas comment on fait. Beaucoup de médecins dans le passé, et en particulier au moment du sida, d'autant que c'est très difficile de voir un malade atteint du sida en essayant d'éviter les stéréotypes qui couraient dans les années 80, qui étaient que c'était des contaminateurs possibles. C'est terrible, il faut les prendre aussi pour ce qu'ils sont. C'est d'abord des malades. Donc aller chercher tout de suite le problème de la transmission. Bref, je trouve ça très complexe et je vous propose un petit extrait sonore pour nous introduire la question. C'était en 1994, un reportage du 8 heures de France Inter.
L'Académie de médecine vient de soulever un lièvre en suggérant de lever le secret médical dans le cas d'un séropositif qui refuserait d'en informer son partenaire. 65% des médecins interrogés sont d'accord pour le lever, mais pas dans n'importe quelle condition, ajoute Pierre Coste, secrétaire général de la fédération MG France, les médecins généralistes. Pour lui, il faut privilégier la relation de confiance entre le médecin et son malade.
Que le premier problème avec un séropositif, c'est d'abord le malade et sa maladie. Notre relation s'inscrit dans le temps avec le patient. Il faut d'abord lui faire prendre conscience de sa maladie, de sa séropositivité, puis de sa maladie, du risque de l'entourage. C'est tout un cheminement avec lui d'acceptation de sa maladie, de responsabilisation par rapport à lui-même, de responsabilisation par rapport à l'entourage. Et c'est notre métier de tous les jours. Je veux dire, moi je ne suis pas très inquiet dans ce cheminement-là. Par contre, c'est vrai que quelquefois, on va aller un peu plus loin et la nécessité de dépénaliser les distances prises par rapport au secret médical, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, exactement comme pour les sévices sur enfants, où si un médecin déclare des sévices sur enfants, il n'est plus attaquable pour violation du secret médical. Mais ce n'est pas pour ça qu'on souhaite une loi qui nous oblige.
Troublante analogie avec le problème des sévices sur enfants. C'est intéressant hein, comment l'analogie fonctionne. Je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne complètement. Martin Dumont, là, on entend des médecins dire à l'époque autorisation à casser le secret médical, d'accord, mais pas d'obligation à le faire. Ça veut dire pas de loi. Laissez-nous avec nos problèmes déontologiques et laissez-nous les trancher nous-mêmes. Moi, je ne sais pas comment font les médecins. Je trouve ça terrible. Imaginez un couple. Il y a une MST qu'on a du mal à soigner. On ne peut pas prévenir le conjoint. Enfin, comment vous pensez ces questions aujourd'hui, Martin Dumont ?
Je ne sais pas où en est la législation actuellement, mais je sais qu'il y a des exceptions au secret médical, en tout cas, auxquelles on peut recourir. Et effectivement, ça pose cette éternelle question de savoir si le médecin est le médecin de son patient oui. ou aussi de la société dans son ensemble, pour aller très très vite. Et donc, auprès de qui il a une responsabilité ? Ce qui est certain, c'est que sa première responsabilité, c'est quand même la responsabilité singulière, avec une personne singulière. Et le secret médical, il est là aussi pour préserver le fait que les gens consultent, acceptent de consulter en toute confiance. Et donc, il faut le lever uniquement de manière extrêmement précautionneuse. Moi, ce qui me frappe inversement aussi, c'est qu'on assiste encore trop souvent à des levées brutales de secret médical dans nos sociétés. Pendant la période du Covid, absolument tout le monde savait qu'il y avait le Covid. C'est quand même très étonnant comme phénomène. Il y avait une sorte de levée de l'interdit.
Mais pas par les médecins, par les gens.
Oui, mais ça se répandait très aisément dans les milieux professionnels. On discutait des étudiants dans mon université en disant « Ah bah oui, un tel l'a, un tel ne l'a pas ». Enfin, il y a eu ce moment un peu étrange et donc il faut quand même garder cet aspect protecteur qui est essentiel.
Il y a une série en ce moment disponible australienne qui s'appelle The News Reader, en français Profession Reporter, une série de 2025, où on revient aux années 80 et au sida. Et on voit dans cette série notamment une séquence entière où on n'arrive même pas à parler, je parle dans les milieux journalistiques, des patients atteints du sida, homosexuels, sans immédiatement les soupçonner d'être des contaminateurs possibles pour les transfusions sanguines, etc. Et c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est en même temps, quand on a quelqu'un face à soi qui souffre, avant de voir le contaminateur, commençons par voir sa maladie. Laurent Joseph.
Oui, je pense que cette question du secret médical, elle est très importante et elle pose aussi la question des silences et des différents types de silences qui peuvent exister dans le monde du soin. Comme disait Martin Dumont tout à l'heure, est-ce qu'on est le soignant, le médecin de son patient ou de la société ? Et là, quand on accueille le secret médical, on accueille d'abord le récit de notre patient. L'intime, il fonctionne aussi. L'intime, c'est ce qui arrive à notre corps ou les mauvaises rencontres qu'on a pu faire dans notre existence. Et puis, à un moment, cet intime-là, pour pouvoir le supporter, pour pouvoir vivre avec, on va le confier aux médecins qui soit va nous soigner chimiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, ou va juste écouter ce qui nous arrive. Mmh. Et ce récit, c'est ce qui permet de rendre supportable l'intime. Donc, et par rapport même à l'extrait de Claire Marin tout à l'heure, où là, ce que vous dites, le silence des médecins, il a pu permettre aussi à certains patients victimes du sida de ne pas être vus comme des parias, comme des lépreux, comme des individus honteux. On connaît la violence du regard c'était terrifiant. Donc, ce silence-là, il protège. Et puis le silence, à un moment, il peut faire la bordure avec quelque chose qui protège plus, mais un silence qui devient délétère. Et par rapport à la levée du secret professionnel, ce dont je suis certaine, c'est qu'il y a un article, je crois que c'est le 228.3, qui fait que quand un enfant est victime de violence, enfin un mineur en tout cas est victime de violence, on est tenu, les médecins sont tenus, les psychologues, tous les paramédicaux sont tenus de lever le secret professionnel.
Et s'ils ne le font pas, ils sont sanctionnés ?
Absolument. Absolument.
Par qui ils sont sanctionnés ?
Alors, ils sont sanctionnés certainement par la loi, par l'ordre, mais on sait que c'est très complexe, parce qu'on sait aussi, ça c'est d'autres débats qui sont plus propres à la protection de l'enfance, mais c'est très bien qu'on puisse les nommer ici, certains médecins, parce qu'ils ont levé le secret médical par rapport aux violences que subissaient certains enfants, ils ont été sanctionnés par l'ordre. Donc on voit très bien que dans certaines pratiques qui touchent aussi à des formes d'omerta, à d'autres formes de silence, la levée du secret médical sur les violences faites aux enfants, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça, on avance.
Si vous voulez ajouter un dernier mot, Martin Dumont, je vous laisse faire, il nous reste une petite minute, je vous laisse conclure sur ce qui vous paraît aujourd'hui essentiel dans le rapport des médecins, des soignants aux malades, concernant le respect de l'intime. Qu'est-ce qui est urgent en ce moment à penser ?
Moi, actuellement, c'est cette question de la conversation, de comment est-ce qu'on peut penser le soin comme une conversation. Et comme une conversation aussi libre de ne pas évoquer ce dont elle devrait être le sujet. C'est-à-dire qu'une conversation, c'est aussi la possibilité de ne pas forcément parler de sa santé. Et du coup aussi, dans ces questions de pudeur, je me dis qu'il faut arriver à penser aussi les réserves des patients à l'égard de certains gestes, les refus parfois un peu violents, comme aussi certaines formes de leur santé. C'est-à-dire d'être capable d'élargir quand même le concept de santé au fait que ou de leur pathologie aussi. On peut dire que c'est aussi un peu pathologique de ne pas vouloir se faire soigner, mais que dans cette forme de pathologie, il y a aussi un soutien pour eux et quelque chose comme un jeu un peu libre de leur part. Donc préserver ça aussi, et une conversation doit pouvoir le faire émerger.
Celle que j'aime se destine à un très noble et beau métier. Chaque jour à la faculté, elle prépare médecine. Mais la nuit, quand je la caresse, elle me chuchote à mi-voix. Sais-tu ce que j'ai sous les doigts quand ton corps sur le mien se presse? Du carbone et du potassium, du phosphore et puis du sodium, du zinc, du fer, de l'hydrogène, de l'iode, du cuivre, du brome, du manganèse et du calcium, de l'azote et de l'oxygène. Le corps est à moitié plein d'eau, il contient des sels minéraux et des matières organiques. Il y a la chair et les os, et puis les muscles sous la peau, que tout cela est érotique. Je suis envié par mes amis qui pensent qu'un docteur au lit doit trouver des choses géniales. Le génial est que dans le noir, je crois être un cours du soir, je vis des amours médicales. Entre nous, je vous avoue que je fais des complexes en amour, car je sens bien que jusqu'au jour, en parlant, elle me dit sec. Aussi bien pour la faire taire, je clôt sa bouche d'un baiser. Mais dès qu'elle peut respirer, elle poursuit son inventaire. Du nickel et du vanadium, molybdène et aluminium, du plomb, de l'étain et du bore, titane, arsenic, magnésium, fluor, cobalt et silicium, et même du soufre et du chlore. Elle continue par le foie, les poumons, les reins, l'estomac, le pancréas, les parotides.
Charles Aznavour, Les Amours médicales, une chanson de 1978. Merci beaucoup Laurent Joseph et Martin Dumont. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je souligne que notre série sur l'intime et la pudeur est aussi un clin d'œil au Festival de sciences humaines de la ville d'Alès qui ouvrira ses portes en fin de semaine et qui a choisi ses thématiques pour son édition de cette année. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse à la passion de la vérité. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la vérité dépasse-t-elle les passions ? La vérité peut déchaîner les passions, et c'est souvent le cas. Et si elle le fait, c'est bien sûr parce que l'objet de la vérité est toujours la vérité sur ou de quelque chose, l'objet de la vérité peut concerner des questions de vie ou de mort. Ça peut être la vérité sur telle ou telle accusation d'un crime, par exemple dans un tribunal, comme celui qui a conduit Socrate devant le tribunal de l'Athènes démocratique du 5e siècle avant Jésus-Christ à être condamné à mort, par erreur, par mensonge, mais à être condamné à mort, et il y avait donc des passions déchaînées, une sorte de guerre civile autour de la philosophie. Il peut y en avoir autour de crimes très graves, il peut y avoir des accusations mortelles, il peut y avoir aussi des craintes fondamentales qui nous amènent à faire de la vérité un objet de passion. Et pourtant, la vérité ne peut pas se réduire à des passions, la vérité ne peut pas se réduire à des intérêts des uns ou des autres. Ce n'est pas par hasard que l'on prend en réalité toujours comme exemple de la théorie de la vérité, des objets neutres apparemment très simples et très évidents. Par exemple, dans cette définition logique de la vérité, de la phrase « il neige », la phrase « il neige » est vraie. S'il neige. Et s'il neige, eh bien, je peux le vérifier en regardant par la fenêtre, en faisant appel à un climatologue, en vérifiant objectivement par des critères définis collectivement et vérifiés par l'expérience, en vérifiant donc que l'objet de mon énoncé, l'objet des phrases humaines, est aussi incarné dans le réel lui-même. Oui, on dira ce qu'on voudra, c'est toujours cette adéquation de ce que je dis avec ce qui est, qui permet d'échapper au cercle infernal des passions humaines, aux enjeu éthique et politique de la vérité, mais à la fonder scientifiquement, épistémologiquement et philosophiquement dans le réel. En tout cas, par des critères communs qui permettent d'approcher au plus près de cette objectivité de la vérité. Cette objectivité qui permet de sortir justement des passions et de la guerre. Alors bien sûr, beaucoup de théories philosophiques ont critiqué cette prétention à l'objectivité. Y a-t-il pas toujours une intention, un désir de savoir, une passion de la vérité ? Qui la mettrait en quelque sorte en soupçon, en crise. Nietzsche a critiqué cette volonté de vérité comme une volonté justement d'imposer toujours sa vie aux autres, d'imposer sa vision du monde, sa vision de la vie aux autres. Il peut y avoir aussi les filtres de la sensibilité, les filtres de l'intérêt pratique, les filtres de l'utilité. Nous cherchons la vérité d'abord pour survivre justement et nous cherchons les vérités les plus utiles ou comme disait Henri Poincaré, les vérités les plus commodes. Ce sont celles qui sont vérifiés dans notre pratique, qui nous permettent de survivre, que nous adoptons le plus longtemps, jusqu'à ce qu'un savant, par exemple, nous démontre, eh bien oui, que ça n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse, il nous le démontre contre nos propres impressions, il nous le démontre avec des critères. Alors, la vérité est constamment remise en cause, elle suppose un travail critique, un travail de définition, mais il y a, comme nous disait Blaise Pascal dans Les Pensées, il y a une idée de la vérité en nous qui dépasse tout les scepticismes, même s'il y a une critique de la vérité qui vient toujours aussi compléter cet idéal que nous visons toujours. Au-delà des passions et des intérêts, il y a donc ce travail critique sur les critères de la vérité qui accompagne toujours la recherche scientifique et la production de vérités nouvelles. C'est donc cette réflexivité humaine de la vérité des choses qui nous prémunit contre les passions au lieu de nous y réduire.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.